Et si la figure la plus célèbre de l'histoire pour sa foi inébranlable et sa patience légendaire était en fait un homme totalement paralysé par l'anxiété théologique?
C'est une question qui bouscule pas mal de certitudes, ça.
Ouais, c'est clair. On a tous en tête cette image très nette, presque de l'ingénierie spirituelle, quand on parle de Job. Le saint parfait, tu vois, le roc au milieu de la tempête, qui est juste victime d'un pari cosmique hyper cruel.
C'est très confortable d'avoir un personnage aussi binaire.
Totalement. C'est le summum de la piété sans la moindre faille. Mais notre exploration approfondie d'aujourd'hui va faire voler cette image en éclats.
Les textes anciens ont cette fâcheuse tendance à résister à nos simplifications modernes. Dès qu'on gratte la surface du prologue, cette belle radiographie sans tache commence à révéler des fractures qu'on ne voyait pas à l'œil nu.
Bon, décortiquons tout ça. Notre mission pour cette session, c'est de plonger dans les recherches du docteur John Walton, et plus spécifiquement dans son analyse de ce qu'il appelle la scène sur Terre.
Exactement. On parle des 5 tout premiers versets du livre de Job.
Voilà. Et en croisant ses travaux avec des textes historiques du Proche-Orient ancien, on découvre un secret psychologique profondément enfoui dès les premières lignes.
Loin du petit conte moralisateur sur la souffrance injuste. Ouais.
C'est ça. Ces sources posent des bases radicalement différentes de tout ce qu'on imagine sur la relation entre cet homme et le divin.
Ce qui saute aux yeux dans l'approche de Walton, en fait, c'est la mise en lumière d'une déconstruction méticuleuse, opérée par l'auteur biblique lui-même.
Dès le début, quoi.
Ouais, en 5 versets, on ne nous présente pas du tout une foi sereine. C'est carrément l'anatomie d'une angoisse religieuse vertigineuse.
Ah, c'est le mot. Mais avant d'arriver à cette angoisse, regardons comment l'auteur installe son personnage. La première chose qui frappe, dans nos notes, c'est l'effort délibéré pour isoler Job, géographiquement et même théologiquement.
Tout à fait.
Il vient du pays 12, donc on n'est pas du tout en terre d'Israël.
Ah non, pas du tout. L'histoire traite de questions philosophiques universelles. D'où cette nécessité de sortir complètement du cadre strict de la Torah ou de l'Alliance du Sinaï.
Ouz, c'est vraiment la périphérie du monde connu.
C'est ça. La Septante la situe d'ailleurs entre l'Idumée et l'Arabie. Donc on est probablement dans ce désert syrien, qui est souvent associé à Édom.
Ah oui, comme le suggère la Genèse, je crois.
Absolument. C'est une région qui, dans l'Antiquité, est vraiment imprégnée d'une forte tradition de sagesse. D'ailleurs, ses amis partagent cette identité d'étranger.
Comme le fameux Thémanite, originaire de Théman.
Voilà. En fait, placer l'action là-bas, c'est une façon pour l'auteur de dire que nous n'allons pas parler de la loi de Moïse, mais de la condition humaine à l'état pur.
Un genre de laboratoire philosophique en plein désert, en somme.
Exactement ça.
Et dans ce laboratoire, le spécimen, donc Job, est décrit avec des termes d'une perfection lexicale qui donne presque le vertige. L'hébreu utilise les mots « tam » et « yachar ».
Ce sont deux termes qui verrouillent immédiatement toute tentative de trouver une faille morale chez cet homme.
Genre, on peut rien lui reprocher.
Rien du tout. « Tam » renvoie à un caractère irréprochable. C'est une intégrité profonde, structurelle. Et Yachar vient compléter le tableau, en décrivant une droiture absolue dans ses actions concrètes.
Dans la vie de tous les jours, quoi.
Voilà, sa conduite quotidienne. Il n'y a aucune culpabilité, aucune dette morale en suspens.
D'ailleurs, il y a un détail fascinant relevé par Walton sur ce point. C'est l'utilisation du terme « Elohim » plutôt que le tétragramme « Yahweh ».
Ouais, c'est un choix très spécifique.
Puisque nous sommes hors des frontières de l'Alliance, Job ne vénère pas le Dieu personnel et intime, mais plutôt la divinité cosmique générale.
Et on retrouve ce même mécanisme littéraire ailleurs, hein, avec les marins dans le livre de Jonas, par exemple, ou Abimélec dans la Genèse.
Ah oui, c'est vrai.
Ils craignent Elohim avec le sérieux immense que requiert une force cosmique, mais qu'ils ne comprennent que partiellement. Job est dans cette même posture. C'est une révérence absolue envers un Dieu lointain et redoutable.
Et en plus de ça, cette perfection morale se traduit par une opulence matérielle qui frise la caricature, non?
Ah ben là, on est dans les extrêmes.
Les sources dénombrent des troupeaux immenses, des milliers de chameaux, des milliers de moutons. En lisant ça, ça m'a fait penser à un de ces profils de réseaux sociaux filtrés à l'extrême.
C'est une super bonne comparaison.
Ou tu sais, à un conte de fées où le héros vit dans un château sans la moindre poussière et où même la météo s'incline sur son passage. Pourquoi l'auteur a-t-il besoin de peindre des extrêmes aussi irréalistes? C'est presque déshumanisant.
L'objectif est purement rhétorique et théologique, en fait. Il s'agit de détruire d'emblée l'argument du principe de rétribution.
à l'idée que la prospérité récompense la vertu et que la souffrance punit le vice.
Exactement. Si l'auteur avait décrit Job comme un homme globalement bon, mais avec quelques petits défauts mineurs, le lecteur chercherait immédiatement la proportionnalité de sa souffrance.
La fameuse loi du karma. On se dirait, il a sûrement fraudé un peu sur ses impôts locaux à Wallouze, donc il a mérité de perdre un ou deux chameaux.
C'est exactement ça. L'auteur ferme violemment cette porte. Job est le summum absolu de l'idéal humain. Il ne souffrira pas parce qu'il a, entre guillemets, un peu péché.
Donc la question de la culpabilité personnelle est évacuée dès le premier verset.
Voilà, ça force l'audience à chercher le sens de la tragédie complètement ailleurs.
C'est quand même une stratégie brillante pour coincer le lecteur face au mur du paradoxe. Parce que, puisque tout est si parfait, si étanche, comment se fait-il que les rituels de la vie privée de Job dégagent une telle atmosphère de panique ?
Et c'est là qu'on arrive à la scène du banquet.
Ouais, au verset 4 et 5. Ça vient complètement fissurer cette façade de sérénité.
Cette scène familiale est probablement l'élément le plus révélateur de tout le prologue. Ces sept fils ont cette habitude d'organiser de grandes fêtes, chacun à leur tour, et d'y convier leurs trois sœurs.
Une vraie dynamique de clan festif, aisé et hyper soudé.
Jusque-là, tout va bien.
On dirait une belle publicité pour une famille modèle. Mais la réaction du patriarche le lendemain de chaque fête, elle est lunaire.
Il y a un contraste énorme, c'est vrai.
Job se lève aux aurores, il fait purifier ses enfants et il lance un véritable barbecue sacrificiel. Il offre des holocaustes pour chacun de ses 10 enfants.
Et la raison invoquée par le texte est frappante.
Ouais, il le fait au cas où ils auraient commis une offense pendant la fête. Prenons un peu de recul de seconde. Il sacrifie des animaux très coûteux juste parce qu'un de ses fils aînés a peut-être fait une mauvaise blague après 2 verres de vin.
C'est de la prévention à un niveau extrême.
Le contraste entre la perfection affichée et cette paranoïa domestique est saisissant. Surtout quand on sait que c'est précisément pendant l'une de ces fêtes que la maison finira par s'effondrer sur eux.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la nature exacte de l'offense redoutée par Job. Le texte hébreu rapporte sa crainte. Il dit « Peut-être que mes enfants ont péché et maudit Dieu dans leur cœur ».
Et toute la subtilité repose sur l'interprétation de cette expression « dans leur cœur ».
Exactement. Une lecture moderne et occidentale y verrait tout de suite la sphère de la pensée privée, comme si Job craignait qu'un de ses enfants y nourrit un ressentiment secret, silencieux, au fin fond de son esprit.
Ce qui rendrait Job capable de scruter l'invisible, ce qui est absurde. Et les notes de Walton démontrent que c'est pas du tout le sens de l'expression dans ce contexte culturel.
Pas du tout. L'expression, lorsqu'elle s'applique à un collectif, à un groupe réuni à huis clos, elle ne désigne absolument pas des pensées individuelles isolées.
Ça veut dire quoi alors ?
Ça fait référence à des murmures, des conversations confidentielles, des propos échangés en cercle fermé.
D'accord.
Le Deutéronome l'utilise dans ce sens, tout comme le psaume 78. Il s'agit d'une dynamique d'assemblée.
Donc l'alcool coule, l'ambiance se relâche, et soudain, il y a une conversation inappropriée qui émerge au sein du groupe.
Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Job ne joue pas du tout au télépathe, inquiet pour le salut individuel de la petite âme de ses enfants.
Mais carrément, Sam. En fait, il agit comme le gestionnaire de crise d'une multinationale.
C'est ça.
Il est l'expert en relations publiques de sa propre famille, qui s'active à 5 heures du matin pour étouffer un potentiel bad buzz, avant même que le scandale ne fuite et n'arrive aux oreilles du conseil d'administration céleste.
La métaphore du gestionnaire de crise est excellente. Il s'agit d'un contrôle des dommages purement préventif. Il nettoie la scène du crime avant que le jour ne se lève.
Mais de quel dommage on parle exactement ? Quelle est la nature de ce scandale qui terrifie à ce point un homme pourtant irréprochable ?
Il faut s'attarder sur le vocabulaire utilisé par le texte. Car il y a un tabou linguistique massif caché sous nos traductions habituelles.
Ah, le fameux euphémisme ?
Oui. Le texte original ne dit pas que Job craint que ses enfants aient maudit Dieu. Le scribe a écrit « Peut-être ont-ils béni Dieu dans leur cœur ».
C'est un euphémisme extrêmement puissant.
C'est ça. Écrire le mot « maudire » juste à côté du mot « Dieu », c'était considéré comme une profanation insoutenable par les scribes de l'Antiquité.
C'était visuellement et spirituellement intolérable pour eux.
Totalement. Donc, ils ont substitué le verbe par son strict opposé. Le contexte rend l'intention évidente, on redoute une malédiction, mais on écrit une bénédiction.
Et les sources révèlent que c'est pas juste une anecdote pour linguiste, cette histoire. Ce jeu de miroir entre la bénédiction et la malédiction, c'est carrément l'ossature littéraire de tout le début du livre.
Tout tourne autour de ça.
Dieu commence par bénir Job en faisant ses louanges devant le challenger, ce qui, paradoxalement, déclenche tout le chaos. Ensuite, le challenger parie que face à la ruine, Job finira par bénir Dieu, donc maudire Dieu en pleine face.
La tension monte encore d'un cran au chapitre 2, avec la femme de Job.
Ah oui, cette scène est glaçante.
Face à son mari ravagé par la maladie, elle lui lance l'injonction fatale « Bénis Dieu et meurs ». L'ironie est vraiment mordante ici.
Elle l'incite en fait à utiliser des mots de malédiction si violents et directs qu'ils provoqueront une foudre divine immédiate pour abréger ses souffrances.
Exactement. L'apogée de ce motif arrivera après les 7 jours de silence de Job.
Quand il ouvre enfin la bouche.
Voilà. Il ouvrira la bouche pour maudire, mais avec le terme explicite cette fois, sans euphémisme, et il maudira le jour de sa propre naissance.
Il frôle la limite sans jamais franchir l'interdit suprême de maudire la divinité elle-même.
C'est tout à fait ça.
D'accord, mais posons la vraie question de fond. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement « maudire Dieu » dans ce contexte du Proche-Orient ancien ?
C'est pas une simple rébellion ?
Non, parce qu'il faut distinguer ça d'une simple crise de colère. Des crises de colère, Job va en faire des dizaines dans les chapitres suivants. Il va accuser, hurler à l'injustice, réclamer un avocat cosmique, et pourtant le texte maintiendra son intégrité.
Maudire, ce n'est pas juste exprimer de la frustration, en effet.
C'est quoi alors ?
Dans le monde antique, ça relève d'une transgression rituelle et sémantique très très lourde. C'est entrer dans le champ de la manipulation et du dénigrement absolu.
Genre de la magie.
Ça peut inclure l'utilisation de mots de pouvoir illicites, oui, des sortilèges ou des incantations visant à contraindre le monde spirituel.
Et sur le plan verbal ?
Sur le plan rhétorique. C'est affirmer publiquement que la divinité est inepte, corrompue dans son essence, faible ou manipulable par les humains.
C'est un renoncement plein de mépris, en fait.
Un acte de déchéance active. On arrache Dieu de son trône pour le rabaisser au rang d'une entité triviale et méprisable.
Attends, là je me fais l'avocat du diable une seconde. Si maudire implique des actes de haute trahison cosmique, des incantations illicites ou la déclaration formelle que la divinité est corrompue, Job pense-t-il réellement que ses enfants font de la magie noire en mangeant du gâteau et en buvant du vin ?
Ça paraît extrême, c'est vrai.
L'arsenal sacrificiel qu'il déploie le matin semble complètement disproportionné par rapport à une simple fête d'anniversaire.
Si nous relions cela à une perspective plus large, disons à la réalité des banquets de la haute société antique, Job ne s'imagine pas une messe noire clandestine.
Ouf, ça me rassure.
La menace est beaucoup plus pernicieuse. Dans l'euphorie de la fête, sous l'effet de l'alcool, la révérence absolue exigée par la divinité peut tout simplement s'évaporer.
Ah, l'arrogance de l'ivresse.
Ce qu'il redoute, ce sont les fanfaronnades, les propos négligents. L'arrogance de jeunes gens riches qui, l'espace d'une nuit, se croient un peu les maîtres de l'univers et parlent de la divinité avec une familiarité méprisante.
Ou une légèreté coupable. Il craint la désinvolture qui dépouille Dieu de sa majesté.
Exactement.
Et c'est précisément ici que la clé tourne dans la serrure. L'obsession maniaque de Job à vouloir couvrir religieusement ses hypothétiques bavardages de fin de soirée nous révèle l'information la plus importante de tout ce prologue.
Sur Job lui-même, oui.
Les rituels des versets 4 et 5 ne nous disent pas grand-chose sur le comportement de ses enfants au final. Ils sont une fenêtre grande ouverte sur la théologie personnelle de Job.
Et c'est une théologie plutôt terrifiante quand on l'analyse.
Totalement. L'analyse psychologique de Walton démontre que Job est consumé par une anxiété théologique étouffante. Il s'inquiète que la divinité puisse s'offenser de manière mortelle pour de simples déclarations imprudentes faites à huis clos.
Il perçoit l'ordre divin comme un système extrêmement susceptible et punitif. Un système où la moindre virgule déplacée dans le respect protocolaire peut déclencher une catastrophe.
Pour comprendre d'où vient cette mentalité, les sources mentionnent un document historique incroyable. Un texte assyrien intitulé « Prière à tous les dieux ». C'est l'illustration parfaite du climat spirituel dans lequel baigne le Proche-Orient ancien à cette époque.
Ce texte assyrien est vraiment fondamental pour saisir l'angoisse de l'époque.
De quoi ça parle exactement ?
Dans cette prière, un adorateur, frappé par le malheur, tente désespérément d'apaiser le monde divin. Et sa méthode, c'est de s'excuser paranoïaquement pour une liste interminable de transgressions totalement involontaires ou ignorées.
Genre des péchés par accident ?
Voilà. Il supplie de pardonner s'il a, par accident, marché sur un espace sacré, s'il a mal prononcé le nom d'une déesse, ou pire, s'il a prononcé un mot offensant vers un dieu dont il ignore jusqu'à l'existence.
C'est délirant d'anxiété.
La vision sous-jacente, c'est que l'univers est géré par une bureaucratie divine chaotique, très pointilleuse, où l'humain évolue constamment dans un champ de mine invisible.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre perception de Job ? Analysons un peu la dynamique de cette relation avec le divin. On est super loin du tableau idyllique du croyant serein qui marche main dans la main avec son créateur.
On en est même à l'opposé.
Ça ressemble plutôt à un employé qui évolue dans des couloirs d'une entreprise dirigée par un patron colérique, narcissique et d'une imprévisibilité totale.
C'est une métaphore très juste.
On arrive tôt le matin, on fait des heures supplémentaires, on amène des cadeaux et on rédige des mémos d'excuses préventifs, non pas par loyauté ou affection, mais dans le seul but d'éviter que le département ne soit mystérieusement liquidé.
L'analogie du dirigeant tyrannique capte parfaitement l'essence de la piété transactionnelle. Et cela soulève une question importante, qui bouleverse toute l'interprétation traditionnelle du texte.
Laquelle ?
Walton soutient que cette piété anxieuse de Job, ces sacrifices du petit matin, ne sont pas des qualités positives. Ce n'est pas le signe d'une grande foi.
Ah.
C'est la faille béante dans l'armure spirituelle de Job.
Sa piété est son plus grand défaut. C'est quand même renversant comme idée.
Job perçoit Elohim comme un être mesquin, un comptable ombrageux qui exige d'être apaisé en permanence. Sa justice, aussi parfaite soit-elle dans les actes, elle fonctionne sur un mode purement transactionnel.
Il cherche juste à conserver ses bénéfices.
Exactement. Il obéit, il purifie, il sacrifie pour maintenir le statu quo. La santé de ses enfants, la taille de ses troupeaux, sa réputation, il gère un contrat commercial cosmique. Et c'est exactement cette faille qui ouvre la porte des filles lancées par le Challenger.
C'est fou! Ça veut dire que le Challenger ne débarque pas de nulle part, avec une accusation infondée. Si on regarde les choses sous cet angle, quand le Challenger s'avance et déclare qu'il ne sert Dieu que pour les avantages matériels.
Il ne fait que lire le comportement de Job.
Voilà, les rituels matinaux de Job donnaient littéralement du grain à moudre à cette accusation. Job agissait déjà comme s'il payait des primes d'assurance pour garantir sa fortune.
Le comportement de Job justifiait pleinement la question du Challenger. Si la relation n'est qu'un contrat d'assurance contre la colère divine, que se passe-t-il quand l'assureur refuse de payer, malgré les primes versées ?
C'est la grande question du livre.
C'est tout l'enjeu des discours poétiques vertigineux qui vont suivre. La théologie transactionnelle et mesquine de Job va devoir être méthodiquement déconstruite.
Bon, il est temps de faire le bilan et de rassembler les pièces de ce puzzle fascinant. En plongeant au cœur de ces 5 premiers versets avec les outils de John Walton, on a vraiment assisté à une métamorphose complète.
Le point de départ était bien différent, oui.
On partait d'un saint immaculé venu de la lointaine Terre 12, drapé dans une droiture lexicale et matérielle absolue. Une perfection si écrasante qu'elle fermait la porte à l'idée d'une punition méritée.
Mais en regardant derrière le rideau de ses pratiques familiales, l'image du patriarche serein s'est dissipée.
À la place, nous avons découvert un homme épuisé par l'anxiété. Un père dirigé par la peur, enfermé dans une vision transactionnelle d'un dieu qu'il perçoit comme susceptible. Une cage d'or, en fait.
Cette relecture donne au prologue une épaisseur psychologique rare, tu vois. Ça transforme ce conte de la souffrance en une critique féroce de la religion basée sur le marchandage.
Ce qui m'amène à une pensée finale, une idée provocatrice à ruminer pour ceux qui aiment creuser le sujet. Si le drame initial de Job, sa faille originelle, n'était pas un péché moral, mais de traiter Dieu comme un dictateur mesquin et transactionnel. Un distributeur automatique de bénédictions, quoi.
Oui.
Alors, peut-être que la souffrance cauchemardesque qu'il s'apprête à vivre n'est pas un simple pari cruel.
C'est une excellente perspective.
Peut-être est-ce le seul et unique moyen de briser cette fausse théologie, de détruire cette piété basée sur la peur, pour enfin forcer Job à entrer dans une relation véritable et authentique avec le divin. Il s'agissait de détruire le gestionnaire de crise pour donner naissance à un véritable interlocuteur.
Une destruction nécessaire pour une vraie rencontre, oui.
C'est la fin de cette analyse dense et passionnante. Gardons l'esprit curieux et à très vite pour une nouvelle plongée dans ces textes fascinants.